Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Alterna TV. Aujourd'hui, on parle de la crise entre la France et l'Algérie, l'Algérie et la France. Et on se pose principalement la question de savoir quelles répercussions pour les Algériens de France. On se pose cette question parce qu'on a des compatriotes qui sont invités à l'émission de ce soir, qui sont des militants de l'opposition algérienne, donc établie en France. On se pose aussi cette question parce que cette crise dont on parle a vu l'intervention dans ce processus de cette montée de tension ces dernières semaines. Donc on parle d'influenceurs algériens établis en France qui ont proféré des menaces contre les opposants algériens aussi qui militent notamment en France. Il y a eu l'affaire de Boualem Sansal, donc qui est détenu depuis maintenant plus d'un mois. Il y a eu l'intervention ces derniers jours de Emmanuel Macron, le président français, qui a déclaré notamment que l'Algérie était en train de se déshonorer en maintenant en détention un homme de 75 ans qui est gravement malade et qui serait gravement malade et qui aurait besoin ce qu'on empêcherait, selon lui, les autorités algériennes. Il y a eu le discours de Tebboune aussi, le dernier discours, donc à la fin de l'année 2024, où il a aussi déclaré que Boualem Sansal est un imposteur envoyé par la France. Envoyé un imposteur parce qu'il serait sans identité, qu'il ne connaîtrait pas son père, une déclaration, un propos qui a suscité aussi beaucoup de réactions. Donc, on discute de la tension entre les deux pays qui partagent ensemble évidemment beaucoup de choses, d'une histoire à travers la colonisation qui a duré plus de 132 ans. Donc, mes invités, Wardia Belmahamar, militante donc algérienne, des droits de l'homme notamment, des droits des humains. Omar Kezuit, aussi militant, démocrate algérien, donc établi en France. Yesh Djebeili, de notre équipe d'Alterna TV, lui aussi militant, opposant, établi en France. Et Sanhaja Akrouf, qui a visiblement quelques difficultés de connexion. Bonsoir à tous, Sanhaja Akrouf, militante féministe, militante politique d'opposition, également établie en France. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je ferai un premier tour de table pour nous éclairer comment vous voyez cette crise-là. Est-ce que vous la sentez est-ce que vous sentez qu'on est arrivé à un point de non-retour un premier tour de table. Je commencerai par Omar et ensuite les autres.
Bon, vous m'entendez?
Oui.
Hein? Alors bonsoir, bonsoir tout le monde et puis d'abord bonne année à tout le monde, à ceux qui nous écoutent, en espérant que 2025 sera une année pacifiée, une année de progrès humain, populaire et démocratique. Sur cette crise, moi j'ai envie de dire ce qui est très intéressant à discuter, je crois, ce soir, enfin ce que j'aimerais discuter ce soir, c'est la remettre dans son contexte, la mettre dans le contexte des relations internationales, diplomatiques, pas seulement entre la France et l'Algérie. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais dans le contexte général, au Maghreb, de ce qui s'est passé, de ce qui se passe aussi pour la France en Afrique. Et puis pour ce qui se passe en Algérie après après le Hirak et après l'assoupissement du Hirak. C'est dans ce contexte-là, je crois que ce sera intéressant que j'aimerais moi plus orienter à la discussion plutôt que de me prononcer sur le cas. Alors je dis Boualem Sansal n'a pas à être en prison. Point final. Et je ne me prononce pas sur du tout ses qualités littéraires. Quant aux activistes là, enfin, aux prétendus influenceurs là qu'on nous sort, j'avoue que je suis pas du tout compétent pour m'exprimer là-dessus. Je sais pas d'où, enfin, je ne les connaissais pas et je ne sais pas ce que ça vient faire dans cette affaire, quoi. Voilà. Moi, j'entends plus rien.
Pardon, mon micro était désactivé, donc je m'adressais à Wardia. Qu'avez-vous à nous dire ce soir? Comment vous avez vécu justement cette montée de la tension entre les deux pays ces dernières semaines?
Je ne reviendrai pas sur ce que vient d'énoncer mon camarade, parce que bon, j'y souscris complètement. Moi, je rajouterais tout simplement que cette escalade de la violence verbale et de moi ce que j'appellerais la brutalisation du discours, c'était prévisible. C'était prévisible. On est dans la brutalisation de la société algérienne et donc on a cette exportation à la fois du discours brutalisé, de la brutalisation du discours qui existe en Algérie et qui, bien sûr, est accompagné d'actes, donc d'emprisonnement, hein, des détenus d'opinion auxquels ma pensée, hein, ce début d'année, bien sûr, auxquels je pense, parce que on entame encore une année avec autant de prisonniers d'opinion en prison. Donc, que ça s'exporte sur le terrain français, j'ai envie de dire, c'est du déjà vu. Hein, Tebboune n'est pas le premier. Hein, d'autres lui ont succédé. Peut-être pas avec la même intensité et aussi avec une dégradation de l'image du président. Hein, du président algérien, j'entends, de la fonction présidentielle et de la dégradation de la parole présidentielle. Je vais juste finir sur cette phrase, c'est-à-dire que avec cette présidence, on se pose la question de existe-t-il une diplomatie en Algérie? Ou l'Algérie a-t-elle une diplomatie? Monsieur Tebboune s'exprime sur tout et sur rien, et on a l'impression aussi, surtout, que les discours ne sont pas préparés, ne sont pas, ce sont des discours qui sont spontanés, mais c'est-à-dire pas avec tous les avantages de la spontanéité, parce qu'en politique, il n'y a pas de spontanéité, mais avec tous les défauts du discours qui n'est pas préparé et surtout qui n'est pas le fruit de professionnels de la communication et de la diplomatie.
Merci Wardia. Elias Sanhaja semble toujours donc avoir quelques problèmes de connexion. J'espère que ça va s'arranger. Elias, pour la même
Merci.
question, et je rappelle que on discute de ce soir de la crise France-Algérie, bien
Oui, tout
sûr.
à fait. En
On
tout
peut
cas,
parler
oui.
de.
Ouais, je souscris complètement à ce que vient de dire Omar et Wardia. Les relations franco-algériennes ou algéro-françaises, elles ont été toujours historiquement tumultueuses, hein, qu'on le veuille ou non. Même après de nouveaux remues, toujours, il y a plusieurs épisodes diplomatiques et médiatiques fâcheux entre propos haineux de certains influenceurs des électrons libres qui ont terni et qui ont tenu des propos condamnables, inadmissibles, l'encontre de l'opposition algérienne en France. Entre aussi, il faut dire les choses, entre les propos controversés de Macron quand il qualifie que l'Algérie se déshonore, hein, donc ça c'est quand même c'est un glissement. Et aussi, il faut dire les choses, le régime algérien, le pouvoir algérien incarné par Monsieur Tebboune, qui occupe la fonction la plus suprême, hein, la fonction présidentielle la plus suprême. Entre, comme il vient de dire très justement, discours non préparé, discours jeté comme ça, les gens s'interrogent. Voilà. Donc, on est dans une relation un peu, quasiment, les relations franco-algériennes sont à l'arrêt. Le torchon brûle. Même un sondage qui a été diligenté par CNews, un sondage que je qualifie un peu vocation raciste, certes,
qui dit que 66% des personnes sondées de quelle tendance, de quelle couleur, sont contre 66% sont contre l'immigration algérienne. Si on va un peu dégrossir, un Français sur trois s'oppose à la migration algérienne, à tel point que c'est du jamais vu dans l'histoire des deux pays, aussi bien du côté français, parce qu'il y a l'extrême droite qui creuse et qui cerne, et de l'autre côté, le régime algérien qui utilise une politique ultra répressive contre les détenus d'opinion, ainsi de suite. C'est pour ça que les relations sont quasi à l'arrêt, sont très, très tumultueuses.
Mmh. L'escalade de tensions entre les deux pays a commencé suite à la déclaration qu'avait faite en juillet dernier par le président Macron sur la question du Sahara occidental, où il disait qu'il s'alignait sur la position marocaine de résolution de ce conflit, c'est-à-dire qu'il reconnaissait la marocanité du Sahara occidental. Ensuite, il y a eu le cas Sansal, je suis obligé d'y revenir. Ma question suivante, est-ce que le président Macron, dans sa déclaration d'hier quelques jours, avait-il le droit d'aller aussi loin sur l'affaire Sansal, donc en disant que l'Algérie s'est déshonorée en laissant en détention Boualem Sansal? Est-ce que ce n'est pas plutôt, comme le disent beaucoup d'Algériens notamment, une affaire algérienne? Entre Algériens, on peut dire que, évidemment, que c'est une détention arbitraire. C'est un gars qui a été retenu pendant plusieurs jours sans que sa famille sache, ses proches sachent où il se trouvait. On peut le dire, mais est-ce que c'est du rôle du président Macron, un pays français qui présente Boualem Sansal comme un franco-algérien, donc français, alors qu'il est d'abord algérien parce qu'il est devenu français, il n'a obtenu la nationalité française qu'en 2024, c'est-à-dire il y a quelques mois. Est-ce que Macron était dans son rôle dans la déclaration qu'il a faite à ce sujet-là? Je refais un tour de table sur la question. Omar. Le micro, Omar, le micro est désactivé.
Je disais oui, Sanhaja n'a peut-être pas eu l'occasion de s'exprimer sur le premier tour, mais je voulais très rapidement rajouter, comme l'a dit Odea.
Pardon, Sanhaja, pardon.
La situation en Algérie, c'est qu'il y a encore des centaines de prisonniers, des détenus d'opinion. Et quant à Boualem Sansal, c'est vraiment, ça m'a l'air d'être un os. C'est, je veux dire, à part les désagréments que lui connaît, cette arrestation arbitraire, etc. Mais si vous voulez, dans le contexte des relations, comme tu l'as rappelé, le contexte des relations France-Algérie aujourd'hui, elles sont marquées par les manœuvres, les mouvements autour de la question du Sahara occidental. La dégradation probablement des relations économiques, et puis un régime algérien, comme vous l'avez dit, qui est un peu en panne, en panne de projet. Donc sans ça, ça devient skin dahia, c'est une victime expiatoire de règlements de compte qui sont à un bien plus haut niveau et dont il faudrait qu'on parle, parce que la situation est quand même extrêmement tendue autour de cette question du... Hein, je rappelle, le Sahara occidental, la France fait une déclaration comme quoi, au mépris des résolutions de l'ONU, elle s'aligne sur une initiative du Maroc, et ça, cette initiative, elle arrive après la signature des accords d'Abraham par le Maroc en reconnaissance... vers Israël et avec Trump, et donc un deal entre guillemets sur diplomatique pour changer les positions. L'Algérie est du coup effectivement en situation de, elle est un peu enserrée, prise dans cette nouvelle écheveau de relations internationales. Donc c'est plus ça, à mon avis, l'urgence, l'inquiétude. Et malheureusement, Sansal et les influenceurs, etc., viennent simplement servir de vraiment de prétexte, et ils cachent même pas la, ils parviennent même pas à cacher le fond des tensions. Le fond des tensions, c'est la France a perdu ses positions en Afrique énormément. Elle probablement table sur le Maroc pour revenir à travers son implantation, les implantations du Maroc en Afrique sahélienne, pour éventuellement revenir dans le jeu. Et évidemment, cet axe Paris-Rabat ne peut pas ne pas inquiéter en Algérie. Mm-hmm. Ah, d'ailleurs.
Enfin. Oui, Sanhaja, pardon, tout à l'heure, donc vous avez dit que des problèmes de connexion. Donc, les deux premières questions pour vous, allez-y. Ensuite, on va donner la parole à Wardia.
Je suis désolée, la
première question, c'est comment vous avez vécu, vous vivez plutôt, puisque ça se poursuit, cette crise en tant qu'Algérienne résidente en France depuis plusieurs décennies. Comment vous vivez la crise, les nouvelles tensions qui sont assez fortes entre la France et l'Algérie? Deuxième question, est-ce que le président Macron, dans sa dernière déclaration sur l'affaire Sansal, était dans son rôle?
Bonsoir. J'ai envie de dire que c'est ce qu'on ressent en tant que militant et en tant que citoyen, hein, là, parce que je pense qu'il n'y a pas assez de recul pour. Il y a une opacité sur le sujet, que ce soit des deux rives de la Méditerranée, hein, donc que ce soit ici, que ce soit là-bas. Donc il y a certainement des choses qui nous échappent. À mon avis, politiquement parlant, en tout cas au niveau diplomatique, de part et d'autre, on n'a jamais vu une crise, j'ai envie de dire, qui tourne autour de jeunes qui sont des haragas et des machins, quoi. Les crises diplomatiques à l'époque de Mitterrand, à l'époque de Chirac, etc., c'était beaucoup plus à un niveau supérieur. Donc, je suis quand même un peu étonnée. Mais comme disait, je crois, Omar, c'est au niveau international. Quand on a un Trump président de la première puissance, ça donne une idée de où va le monde, hein, il y a quelque chose d'inquiétant à ce niveau. Nous, en tant que citoyens, qu'on le veuille ou pas, on l'assume, et je pense autour de cette table, on est les quatre binationaux, enfin, franco-algériens. Donc, parce que de fait, ça fait notre vie, elle est là. On est algérien parce que il y a beaucoup de binationaux, beaucoup de franco-algériens qui ne parlent de que l'Algérie, que pendant les vacances et quand leurs parents leur envoient l'huile d'olive ou kaknaqash, quoi. Alors que nous, on est réellement impliqués, quoi. Nous, on est vraiment impliqués dans ce pays. Je pense que on n'arrive pas à s'en détacher. Moi, je sais pour savoir que Omar, comme moi, on milite par ailleurs dans les partis français ici de gauche, évidemment. Mais ça nous tient à cœur, et d'où l'inquiétude, parce que c'est pas comme si c'était le conflit de gens qui habitent à Singapour. Il y a trois Algériens et un ambassadeur, peut-être même pas, alors qu'ici c'est quand même une communauté assez importante, et donc l'enjeu est très très important. Moi, je suis inquiète. Moi, je vous dis la vérité, je suis très inquiète. On a l'impression, on fait un pas, il y a eu les, on dit ce qu'on veut sur les accords de, sur la commission Stora, et de l'autre côté, la preuve, c'est qu'on sait pas qui c'est, l'autre côté n'est pas très connu. Il y a quand même débat. On peut les critiquer, on veut, mais il y avait une volonté il y a 4-5 ans de vouloir, Macron, quand il a fait sa campagne électorale, il est parti en Algérie en disant, je veux faire de mon mandat la reconnaissance du 17 octobre de crimes d'État, quoi. Donc là, on n'y est plus. On n'y est plus, et moi, j'avoue que ça m'inquiète. Maintenant, sur Macron, je suis fonctionnaire, donc j'ai l'obligation de réserve. Donc, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, on dissout une assemblée sur un coup de tête, on peut dire des choses sur un coup de tête aussi.
Lies, merci Hassan Hadja. Lies, pour la même question sur les propos du président Macron. J'espère que vous n'êtes pas fonctionnaire, vous aussi.
Non, enfin, moi je ne suis pas fonctionnaire, mais quand même, nous avons des projets économiques avec certaines institutions financières de l'État français. C'est juste, mais moi je suis un citoyen libre, je suis franco-algérien, donc je n'ai rien à cacher. Et puis voilà. En tout cas, pour répondre à ta question, Alep, l'affaire Boualem Sansa, les arrestations des influenceurs algériens.
C'est ma prochaine question, Lies.
Oui, d'accord. Sur l'affaire de Boualem Sansa, au fait, je veux dire, elle a accéléré un peu elle a accéléré les tensions entre la France et l'Algérie. Je veux dire, du côté français, quand un président, il dit, il évoque le mot doute et déshonoré, je veux dire, là, ça peut provoquer des rires à Alger. Et Alger, elle répond par le terme génocide. Même son ministre des Affaires étrangères, Monsieur Barrot, au lieu de calmer, je veux dire, d'atténuer un peu sa tension, il dit quand le doute s'installe en diplomatie, c'est que l'heure est grave. Je pense, à mon avis, il faut mesurer la teneur de ses propos, parce que la France et l'Algérie, ce sont deux pays, qu'on le veuille ou non, ils sont très proches, ils ont une relation historique depuis des décennies. Donc maintenant, la France est un pays souverain, je l'ai toujours dit, quand elle a décidé de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Quoique avant la France, elle a emboîté le pas, les États-Unis, ils ont reconnu la marocanité du Sahara occidental ainsi que l'Espagne. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il cherche le régime algérien et qu'est-ce qu'il cherche le pouvoir français? Il faut savoir que Macron, c'est pas Macron, c'est toute l'extrême droite qui gravite autour, qui pousse carrément à mettre fin aux relations diplomatiques avec l'Algérie. L'heure est grave. Je pense que l'histoire, elle remonte même pas au niveau de la marocanité, la reconnaissance de la marocanité de la France sur le Sahara occidental. C'est depuis le retrait de la France du Sahel, c'est que l'Afrique n'a plus besoin de l'Algérie pour une raison très simple, c'est que l'Algérie n'offre plus l'offre que l'Algérie offre aux pays subsahariens. Est très maigre, tout simplement. Et l'arrivée des Russes, ceci, le Sahel, c'est plus la priorité de la France. Elle avait besoin de l'Algérie quand elle était présente. Maintenant, les pays en Afrique se libèrent, ils essayent, parce qu'il y a des jeunes qui prennent le pouvoir, aussi bien au Tchad, malgré que c'est le régime des militaires. Au Sénégal, c'est une démocratie. Donc finalement, tout ça, il faut le mettre dans une globalisation et une reconfiguration mondiale. En tout cas, l'erreur, pour moi, je peux me permettre de dire l'erreur de Macron de ne pas garder la neutralité. Je veux dire, de ne pas garder la neutralité vis-à-vis du Sahara occidental. Il y avait des présidents comme François Mitterrand, comme Jacques Chirac, comme Nicolas Sarkozy et comme François Hollande, qu'on soit d'accord avec eux ou pas par rapport à leur politique, mais ils n'ont jamais franchi ce pas. Donc, ce pas a été franchi. Comment il a été franchi? Pour quelles raisons? Qui était derrière? C'est ça la question.
D'accord, merci. Je ne sais pas, Omar,
oui, je réagir, bien. Oui. Je veux bien, je vais aller dans le sens de, comme l'a dit Lias, il y a effectivement, dans le contexte, le contexte général, c'est la diplomatie algérienne, elle n'est plus ce qu'elle a été dans les années 70 ou dans les années 80, enfin, elle n'est plus ce qu'elle a été. Sa parole, comme vous le disiez au début de l'émission, à travers son président, sa parole est démonétisée. Sa parole, elle n'est plus écoutée tellement. Et donc, le jeu, les manœuvres diplomatiques, les grandes plaques tectonique là de cette manœuvre sur l'Afrique, le Maghreb, le Moyen-Orient, parce que tout ça est lié. Ah, évidemment, comment ça s'appelle? Le traité signé par le Maroc, c'est un traité qui touche le Moyen-Orient. C'était en échange de la reconnaissance et de la reprise de relations avec Israël, de l'abandon.
C'est les accords d'Abraham.
Oui, les accords d'Abraham signés dans le premier mandat de Trump, à la fin de son premier mandat. Hein, et qui avait, alors là où peut-être je suis, c'est quand même ce traité-là qui se met en infraction par rapport à la légalité internationale. C'est ce traité-là qui s'assoit sur des résolutions de l'ONU. Donc c'est un peu eux qui ont commencé les manœuvres et les provocations, on va dire. Hein, de ce point de vue-là, je veux dire, c'est pas l'Algérie qui est responsable. En revanche, comme je disais, elle ne peut pas ne pas s'inquiéter en tant que État, en tant que diplomatie, même si aujourd'hui il y a de quoi être frustré, effectivement, parce que je ne sais pas si elle est en train de se reconstruire, mais aujourd'hui on ne voit plus la diplomatie algérienne. Alors tu parlais des États sahéliens, justement. Alors elle n'a pas quitté, la France n'a pas quitté le Sahel, elle a été virée, hein, c'est différent, et elle a été virée parce que d'autres vont probablement devenir les partenaires principaux du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, etc. C'est ce qui est en train de se passer, et je boucle sur mon hypothèse, le rapprochement avec le Maroc de Macron, c'est le désir de revanche, hein, de cet affront. C'est pour aller laver cet affront par Maroc interposé ou en utilisant les services marocains qui sont déjà implantés, les relations commerciales qu'ils peuvent avoir, etc. Voilà. Pardon. Donc juste sur la, et je suis désolé d'avoir été long. Mais du coup, je me moque un peu de la question de savoir si les uns sont vexés ou les autres sont vexés. Ça, c'est de la rhétorique c'est de la poudre aux yeux. Le fond des choses, il est en dessous. Et historiquement, pour l'Algérie, il y a une grande inquiétude. C'est-à-dire, on n'est plus. Ce régime et cet État, le pays n'a plus la place et le poids dans les relations internationales qu'on avait acquis à partir de l'indépendance et dans les premières années, dans les premières décennies post-indépendance.
Ce qui n'est peut-être pas de la poudre aux yeux, Omar, c'est ce qu'on a vécu ces dernières semaines, c'est qu'il y a des jeunes qu'on présente comme des sans-papiers en situation irrégulière en France, des influenceurs qui auraient des dizaines de milliers, si ce n'est parfois plus, d'abonnés sur TikTok, qui ont proféré des menaces contre des opposants activistes algériens en France et en Europe, à l'étranger, d'une façon plus générale. Trois ou quatre d'entre eux, parce que j'ai appris qu'il y a une dame, j'ai oublié le nom, qui aurait été aussi interpellée, je pense, hier. Donc, il y a au moins quatre de ces jeunes-là qui étaient populaires avant leur déclaration. Donc, c'est pas des personnes qui ont fait leur popularité en proférant de telles menaces. Ils étaient déjà populaires avant de faire les déclarations qu'ils ont faites. Une situation irrégulière, qui vivent en France, c'est-à-dire qu'ils ont fui l'Algérie, ils profèrent des menaces. Quel intérêt est-ce que, comme disent certains, est-ce qu'ils ont été téléguidés par les autorités algériennes, est-ce qu'ils étaient en ignorance de, c'est quelque chose dans des pays où il y a un minimum de règles de droit, c'est des déclarations qui peuvent être lourdes de conséquences, qu'est-ce qui a motivé ce genre de déclaration? Et bien sûr, depuis le début du Hirak, il y a certes quelques intervenants, quelques énergumènes. On pense à, par exemple, au dénommé Ben Sdira, par exemple, en 2021, juste avant les incendies de Kabylie, qui avait proféré aussi de réelles menaces. Il y a aussi des youtubeurs. On en a ici quelqu'un. Il y en a en Europe qui qui s'attaquent régulièrement donc à des militants, mais à ce niveau de violence, je pense que c'est une nouveauté. Ils ont été arrêtés, quelques-uns d'entre eux. Éclairez-nous justement, Wardia, pour commencer, je refais le même de tutor, sur les supposées motivations ou est-ce qu'ils ont été instrumentalisés simplement par les autorités algériennes.
Moi, je reviendrai à ce que j'ai dit au tout début, l'exportation. J'avais parlé de l'exportation du discours, mais là, on est dans l'exportation des mêmes pratiques qu'on a en Algérie, c'est-à-dire des gens qui sont, alors j'irai pas jusqu'à dire, en tous les cas, qui font la promotion. Qui font la promotion du régime. Donc, ils le font d'une manière. Alors, ce qui est quand même, ce qui est commun à toutes ces personnes-là, à tous ces influenceurs ou influenceuses, c'est des gens qu'on a vus. Par exemple, cette dame dont vous parlez, je n'ai pas envie de me rappeler son nom parce que j'espère que l'histoire retiendra d'autres noms que le sien ou que le nom des autres. C'est une femme que. C'est une dame.
Elle s'appelle Sofia. Sofia de Lyon.
Et c'est une dame qui est déjà passée sur, qui postait des choses sur Facebook. Donc Amit Boun, etc. On a un discours viriliste, on a un discours qui est Amit Boun, etc. Enfin bon, on est quand même dans, encore une fois, on est dans la dégradation du discours, on est dans la dégradation de la parole, et y compris de ce qu'ils veulent promouvoir comme l'algérianité. Je suis désolée, moi, les Algériens, il y a un type d'Algériens auquel je me réfère et qui sont des modèles, et c'est pas ces gens-là. Mais on a ça déjà en Algérie. Il y a des personnes comme ça en Algérie, il y en a peut-être un peu plus. Donc, ils ont commencé par Facebook, ils étaient déjà sur Facebook et maintenant, ils passent de plus en plus. Hein. Bon, c'est l'occasion fait le larron, hein. On est dans un contexte où les réseaux sociaux, où le TikTok est un procédé qui va très loin, qui va très vite et c'est comme ça qu'ils sont arrivés. Mais que ces gens-là soient interpellés aujourd'hui, parce que effectivement, bon, il y a eu des menaces. Hein. Enfin bon, on en a vu quelques-uns aussi sur la place de la République et mes amis, mes camarades ici présents, on en a vu sur la place de la République qui venaient en chair et en os essayer de perturber, essayer de provoquer les uns et les autres, etc. Donc on est dans ce Et on a été aussi, y compris par certaines de ces personnes, ou en tous les cas leurs amis, l'organisation des manifestations en même temps que les nôtres sur la place de la République. Donc l'idée est de montrer que dans la diaspora, il n'y a pas que le Hirak, il n'y a pas que les Hirakistes, il n'y a pas que les anti-régimes, mais il y a aussi les pro-régimes. Moi, j'ai des amis français, donc des binationaux, y compris des gens qui sont nés ici, qui me disent qu'ils reçoivent des messages par des messages sur leur téléphone, du consulat, pour ceci, pour cela. Donc, on est sur la multiplication des moyens de promouvoir le régime, sauf que le moyen de ces influenceurs, ce sont des moyens, encore une fois, qui sont représentatifs de ce régime-là, qui sont violents. On est dans la parole violente, on est dans des attaques personnelles, on n'est pas dans l'objectivité, on n'est pas dans l'amour du pays, on est dans l'amour du régime. C'est-à-dire que tu as le cadre, on est toujours là-dedans. Hein. On a eu les gens qui embrassaient le cadre et qui se mettaient au garde à vous devant le cadre de Bouteflika. Aujourd'hui, on fait pareil. Et ces influenceurs qui vivent sur le territoire français, leur fonction, c'est de montrer qu'il y a des pro-régimes en Algérie et qu'ils parlent très fort. Sauf qu'ils parlent très fort, ils parlent très mal et leur parole, elle n'est pas porteuse, elle est porteuse de haine. Et ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Je voulais juste revenir par rapport à la question de Boualem Sansal. Moi, je ne vais pas défendre Boualem Sansal parce que c'est Boualem Sansal. Moi, mes convictions pour la défense des droits humains, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie des êtres. Ce n'est pas parce que quelqu'un est un écrivain que je le défendrai plus que quelqu'un qui ne l'est pas. C'est Boualem Sansal, quelles que soient ses paroles, sur l'histoire de l'Algérie qui sont discutables, mais ça, c'est un débat. Un débat aurait suffi à l'éclairer ou peut-être à lui montrer les limites de ses analyses ou de ses connaissances historiques.
Ça, pardon de vous couper pour la discussion. Est-ce que Boualem Sansal est juste un écrivain qui a de mauvaises positions?
Non, mais ça, je m'en fous. Moi, je ne parle pas de l'écrivain.
Non, mais je vais préciser mon propos et puis je vais vous laisser terminer. Il est membre de deux comités stratégiques. L'un du Média Frontière, proche, qu'on présente de l'extrême droite, proche de Zemmour, pas même le Rassemblement National. Il est membre aussi d'un think tank lié à la sécurité qui conseille le gouvernement français sur les questions de sécurité. On peut juste parler d'un écrivain qui a exprimé des positions qu'on pourrait réprouver?
Moi, d'abord, je ne parlerai pas d'un écrivain parce que je ne suis pas là pour parler de ses qualités littéraires. Je vais me taire là-dessus. Ce que j'en pense, je le garde pour moi. Qu'il soit affilié à des groupes d'extrême droite, c'est encore, ça le regarde et l'histoire le jugera. L'histoire le juge déjà, mais le jugera. Par contre, moi, il y a quelque chose sur lequel je ne peux pas me renier en tant que militante des droits humains, c'est que il a droit, s'il s'est rendu coupable de quoi que ce soit, il a droit à un procès équitable. On n'avait pas à venir le cueillir à l'aéroport comme on l'a fait et puis le faire disparaître pendant quelques jours pour qu'il réapparaisse. Et puis, de toute façon, on vient de le voir aussi avec le journaliste. C'est-à-dire que, bon, pour moi, Boualem Sansal n'est pas... je trouve qu'il y a une ironie de l'histoire, c'est-à-dire que dans toute cette histoire, c'est encore un Algérien, c'est-à-dire qu'on se fait avoir, c'est encore un Algérien qui devient le bouc émissaire du président Macron, du président algérien, parce que bon, il a tenu ses propos, que ce soit sur commande ou pas, ou que ce soit d'une initiative personnelle, ça le regarde. Il a sa conscience pour lui. Il y a l'histoire qui le jugera pour ces propos-là, mais moi, je conteste le procédé de son arrestation. Je le conteste pour lui, tout comme je le contesterais pour toute personne, pour tous les détenus d'opinion. En revanche, j'insisterai sur l'hypocrisie. Alors, je suis fonctionnaire, et ça va peut-être me valoir des soucis, mais j'insiste sur cette hypocrisie qui est depuis qu'il y a autant de détenus d'opinion en Algérie, on ne s'exprime pas sur la situation. Il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de déclaration des gouvernements français, etc. Il suffit que quelqu'un de connu soit arrêté pour qu'on s'exprime et qu'on... Voilà, moi, cette hypocrisie-là, je ne peux pas, en tant que militante des droits humains, je ne peux pas l'accepter. Boualem Sansal n'avait pas à être arrêté comme il l'a été arrêté, mais tout comme le sont toutes les personnes avant lui, et y compris après lui. En revanche, ce qui, encore une fois, l'ironie de l'histoire, c'est que aujourd'hui, en faisant avec ce que font le jeu de M. Macron et le jeu du président algérien, fait que ça fait émerger Boualem Sansal comme étant le chantre de l'opposition algérienne, ce qu'il n'est pas. Ce qu'il n'est pas, et ça, c'est vraiment dommage. Il n'est pas. Moi, je ne vais pas le condamner pour ça. Encore une fois, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, il milite ou il ne milite pas. Ça le regarde et il aura ça pour sa conscience et pour l'histoire. Mais... voilà les retombées, c'est-à-dire qu'on retombe, le président algérien en fait un bouc émissaire, mais un bouc émissaire qui, voilà. Mais je finis juste par rapport aux propos du président français, on est dans un... le Maroc profite d'un contexte international et Monsieur Macron, il fait partie, il est l'une des pièces maîtresses de ce contexte international au niveau français. Et il rejoint à son niveau et peut-être il rejoint aussi quelques présidents, que ce soit le président Trump, je parlais du président algérien, mais il les rejoint aussi dans cette dégradation de la parole du président. On l'a entendu à Mayotte et je m'arrête là.
Parfait, merci Wardia. Lies, pour la même question sur les influenceurs
qui ont été influencés. Oui, absolument. Maintenant, pour être honnête, Rabh, les influenceurs, on les appelle des influenceurs problématiques. À ma connaissance, ils sont entrés en politique à partir de 2023-2024, quand le régime, le pouvoir algérien, a renforcé un peu sa propagande, surtout contre l'opposition algérienne installés à l'étranger. C'est là où on a vu les influenceurs dans les quatre, Tintin, Zouzou. On la connaît depuis longtemps, qui était un peu dans la sémantique haineuse. On va pas refaire ou remonter la chronologie de ces influenceurs. Et n'en demeure pas moins que est-ce qu'ils sont en contact avec les services secrets ou avec ce qu'on appelle des intermédiaires dans le jargon, les seconds couteaux. Personnellement, je ne peux pas affirmer. Je pense que la probabilité, elle est ultra faible qu'il soit envoyé par le régime. Je pense que le régime ne va pas tomber si bas pour téléguider ses influenceurs, pour semer les troubles en France et ternir l'image même de sa propre existence, si j'ose dire, et celle de son pays. Maintenant, le régime, par contre, le régime algérien, le pouvoir algérien, il est responsable de tout ce qui arrive parce qu'il vient de faire, en faisant de Boualem Sansal son bouc émissaire, oui, un bouc pour punir la France, pour punir Macron, parce qu'ils auraient pu ne pas l'arrêter. Et je veux dire, il avait l'habitude de faire des allers-retours Paris-Alger. Et comment se fait-il? Il a été arrêté. Je rejoins Wardia, parce que nous sommes démocrates, parce que si nous militons pour établir un état de droit démocratique, donc la liberté d'expression doit être, qu'on le veuille ou non, même à contre-cœur, doit être un socle fondamental de notre militantisme. Mais il n'a pas à être arrêté dans ces conditions-là. Je veux dire, on ne peut pas arrêter parce qu'il vient de dire ceci, cela. Enfin, oui, ces propos qui soient condamnables, qu'ils ont heurté la fibre patriote de l'Algérie, oui, dans un contexte très particulier, suite à une audience qu'il a accordée à un journal d'extrême droite. Tout ça, oui, c'est ressenti, mais ça profite à l'extrême droite française et aussi le pouvoir algérien. Le pouvoir algérien, lui aussi, il est responsable de tout ce qui se passe en France et toute cette politique qui est menée depuis des décennies. C'est ça, les mesures d'apaisement. Monsieur Tebboune, quand il parle des mesures d'apaisement, la première mesure d'apaisement, il fallait libérer, c'est ça en fait. Ça fait partie d'une mesure d'apaisement, donc il fallait libérer Monsieur Sansal, il fallait aussi ne pas répondre au tac au tac. Vous savez, Macron, en disant que l'Algérie s'est déshonorée, c'est des propos qui sont hors contexte. Et même moi, je me pose la question, si vous permettez, la gauche française, nous ne l'avons pas entendu par rapport à ses influenceurs. Moi, je suis lecteur, j'essaie de voir un petit peu les courants, mais il y a le silence radio de la part de la gauche française qui n'a pipé aucun mot sur les influenceurs. Donc, qui du coup, le terrain, il reste libre à l'extrême droite et à la droite dure et aussi à certains médias qui véhiculent des propos condamnables parce que, qu'on le veuille ou non, les relations algéro-françaises doivent être réchauffées parce qu'on le veuille ou non, parce que la France a besoin de l'Algérie. L'Algérie a besoin de la France pour percer, je veux dire, le couloir économique européen et au-delà. Donc, peut-être les choses vont revenir quand les eaux troublent.
Merci, Lias. Sanhaja, toujours sur l'histoire des influenceurs arrêtés qui ont proféré des menaces à partir de la France.
C'est-à-dire, si on sort le contexte, l'Algérie, la France, la colonisation, la question Sahara occidentale, tout ça, c'est des personnes, ils ont tenu des propos de meurtre, ils sont jugés, point. C'est tout, c'est pas compliqué. Là, on est sous le coup de la loi, n'importe, au Chili, en Argentine, aux États-Unis, c'est des menaces de mort, point. Et ça s'arrête là. Rappelez-vous, pendant le Harak, l'influenceur ou le, je sais pas, celui qui était de Londres qui a envoyé des menaces, très vite, en deux temps, trois mouvements, il a été tout de suite arrêté. Donc là, c'est la loi qui joue. Maintenant, sur les influenceurs, l'IS, la gauche, elle a d'autres problèmes s'intéresser, excuse-moi, à ces jeunes influenceurs. Alors, franchement, je veux dire, c'est quand même, il y a des problèmes de fond en France. On est au bord de la crise, on est au rebord de la crise. Voilà. Donc, la droite ne s'intéresse même pas. Ceux qui s'intéressent à l'Algérie aujourd'hui, c'est les nostalgiques de l'Algérie française. C'est-à-dire les amis de Boualem Sansal. Et je résume et je le dis clairement. C'est ceux-là qui s'intéressent à l'Algérie aujourd'hui. On va pas chercher. Je parle pas des amis français tels que Olivier Lecour Grandmaison, Gilles Monsran, etc., qui se battent dans des comités pour la reconnaissance des crimes d'État par rapport au 17 octobre. Ça, c'est nos amis. Audin est mort en France, en Algérie, pour l'indépendance de l'Algérie. Il reste des militants de cette catégorie, et heureusement parce que c'est ça aussi qui fait que la grandeur de la France, et c'est ça qui fait que des gens comme nous qui sommes arrivés à l'âge de 30 ans, on a été intégrés, alors que dans beaucoup de pays, ils sont des militants, sauf les États-Unis, et encore c'est sur des questions économiques, mais là c'est notre débat. Sur les influenceurs eux-mêmes, Sophia, elle était parmi les harakistes, hein, rappelez-vous. Sophia, elle était parmi les gens qui ont bloqué le consulat le jour des élections. Et les premières élections de décembre 2019, je ne sais pas si vous vous rappelez ou pas. Et les autres jeunes, j'avoue que je ne les connais pas plus, mais on connaît le Haraga qui était là, quand c'était l'espoir du Harak, etc. Ces gens qui, de mon point de vue, c'est des gens fragiles, c'est des gens qui n'ont pas… Moi, je travaille avec une bonne partie avec eux, c'est mon métier. C'est des gens qui sont très fragilisés. Moi, je vous donne un exemple d'un jeune. Je lui dis, pourquoi un jeune Haraga, je travaille avec les mineurs isolés, les Haraga. Je lui dis, pourquoi tu rentres pas en Algérie ici? Vous savez ce qu'ils me répondent, ces jeunes? Ils me disent, on va partir et on revient, on préfère mourir dans l'eau, dans la mer, et on reste pas en Algérie. Donc ça, c'est les questionnements fondamentaux que doit se poser l'État, et au lieu de s'occuper, je ne sais pas moi, des trucs secondaires, qui c'est qui a parlé, qui n'a pas parlé. Voilà, donc ça c'est le projet de société que les Haraga le portent d'une certaine manière. Parce que les Haraga, rappelez-vous, en 2019, février, mars, avril, le nombre de Haraga a chuté. Ça veut dire la jeunesse algérienne, quand il y a l'espoir, elle veut rester en Algérie. Nous, bon, combien de personnes parmi nous, on a en tout cas espéré et voire même pensé repartir au pays. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'impasse. C'est des jeunes qui sont manipulables. Moi, je vous le dis. Les jeunes même, rappelez-vous, etc., devant le consulat pour ne pas voter, c'est les mêmes qui sont venus 2 ans après frapper les gens sur la place de la République, quoi. C'est les mêmes, c'est pas mais c'est brochement pas char en août de l'eau la semaine ou là, c'est les mêmes profils qui étaient pour la manifestation pour Djebbo Hamzawar, etc., qui étaient en train d'interdire les rassemblements et d'être plus nationalistes que nationalistes. Et ça, effectivement, c'est inquiétant. Maintenant, est-ce qu'ils ont été envoyés, etc.? j'ose espérer que c'est pas digne d'un État, parce que la Sofia, moi, les autres, je peux pas parler, mais la Sofia, je la connais, quoi. Moi, j'ai un peu peur si elle rentre en Algérie, hors de la ministère. Alors là, ça va être la catastrophe, quoi. C'est vraiment, vraiment. C'est-à-dire, la nana, là, rappelez-vous celle d'Algérie, là, qui déteste les Kabyles, j'ai oublié son nom. C'est à côté, c'est Simone Veil, hein. C'est-à-dire, elle est intello. Sofia, hein?
Naïma Salhi, vous voulez dire?
Enfin, on va pas rentrer dans. Mais Naïma Salhi, par rapport à Sofia, il n'est bouche huit à l'Ayani. Mais Sofia, c'est rien. Avec tout le respect que j'ai pour les Tayyabat al-Hammam, il y a beaucoup de Tayyabat al-Hammam, Rzan, ou Andom la logique, t'as ma grand-mère, etc., et qui peuvent peut-être nous sortir de la crise. Même pas ça. Même pas ça. Donc voilà. Donc si vous voulez, moi, je les plains. Moi, j'aimerais bien que ces jeunes puissent rentrer chez nous, chez eux, avec un projet, avec pas être là. Ils sont, je vous dis, je travaille avec eux. Ils sont au cachet de 8 heures du matin jusqu'à minuit, jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Pour la plupart. Pour la plupart. Et je dis encore une fois, ceux-là, je ne les connais pas. Je voulais juste dire un mot, parce que pour apporter un peu la contradiction, Wardia. Moi, je suis d'accord que d'abord, il faut condamner l'arrestation de Sansal de toute façon de cette manière. Moi, j'aurais voulu qu'il soit convoqué, passé autour dans un tribunal, etc. C'est Hakmali, quoi. Je vais vous dire une chose. Mirabel, il est arrêté là parce qu'il a donné une information sur le truc économique ici en France. C'est un grand, grand comédien français qui, je ne sais pas s'il a été relâché ou pas. Donc, c'est des choses qui se passent. Le seul truc, c'est que il faut que ça soit d'une manière très correcte. C'est ce que nous revendiquons. C'est ce que nous revendiquons pour nos camarades qui sont. Il y a des gens qui sont en prison depuis 3 ans. Comment elle s'appelle? C'est une honte. C'est une honte. Rappelez-moi son prénom. Excusez-moi. La jeune qui est en prison du sud algérien.
Non, elle a été condamnée à 3 ans. Elle n'est pas en prison depuis 3 ans.
C'est Abla. Oui, qui a été condamnée. Mais qu'est-ce que... C'est quand même... C'est honteux pour ceux qui l'ont jugée. C'est honteux. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tenu des propos. Mais vraiment, et je termine vraiment... sur Sansal, ce n'est pas n'importe quel écrivain. Kamel Daoud qui est, on va dire, la danseuse du ventre de l'Occident, qui aurait pu redouaf Doha yata ou le chatra et bien ta France ou on se connaît. C'est pas du même. Là, on est sur un autre truc. C'est un ami de l'Algérie française, des nostalgiques de l'Algérie française. C'est-à-dire, moi, je lui fais pas confiance. Nous, on se bat pour l'Algérie, pour la démocratie en Algérie, mais on se bat pas pour que l'Algérie soit de nouveau colonisée ou détruite, ou la syrianisation de l'Algérie, ou l'irakisation de l'Algérie. Non. Ben, sans ça, je ne sais pas.
D'accord.
Je ne lui fais pas confiance en tout cas. Ouais.
C'est clair. Ma question suivante, on a parlé des 3 influenceurs actionnés ou pas par des autorités algériennes, par des services de sécurité extérieure de l'Algérie ou pas. Il y a d'autres personnes qui ont été mises en avant ces derniers jours, enfin ces derniers mois aussi. Il y a quelqu'un, un opposant aussi, un jeune opposant qui est très populaire sur les réseaux sociaux, qui est invité par plusieurs médias. Proche aussi de la droite dure et de l'extrême droite ces jours-ci, et qui est allé dire, évidemment, selon lui, c'est lui qui a informé, alerté les autorités françaises pour qu'ils arrêtent les 3 influenceurs, il le réclame, mais il a dit, il a tenu des propos, il prétend que l'Algérie fomente un complot de déstabilisation de la France. Est-ce que c'est digne d'un militant de dire, d'un militant d'opposition en Algérie de tenir tel propos? Et si vous allez plus loin aussi, c'est ce genre de personnes qui tiennent aussi le discours, le même discours que tiennent les représentants du Maghreb marocain sur toutes les questions liées aux tensions au Sahel, à la question du Sahara occidental. c'est ce qu'on retrouve. Donc, on les entend, ils sont reçus, ce qui n'est pas le cas pour vous qui êtes militant, comme le rappelle Sanhaja à l'instant, qui militait pour une Algérie démocratique et non pas pour le retour de l'Algérie française, ou en tout cas sous la botte de l'impérialisme à nouveau. Est-ce que ce genre d'opposants, on a vu aussi celui qu'on appelle Rakas El-Ayoun aussi, qui est allé à El-Ayoun danser, etc., sous les frais du Makhzen, est-ce que cette soi-disant opposition ne parasite pas la réelle opposition que vous représentez, que représentent aussi beaucoup de gens qui militent depuis le début du Hirak, pour certains beaucoup plus loin que ça? Est-ce que vous n'êtes pas parasité par ce genre de personnage? Omar.
Ces deux individus-là, par rapport aux millions de gens qui, pendant des années, ont défilé tous les vendredis, le mardi, dans toute l'Algérie, à Montréal, à Paris, à Madrid, à Yadraouin, ils pèsent combien? Bon. Donc, c'est insignifiant. Je ne sais pas s'il faut se laisser, disons, nous-mêmes emportés par toutes les manipulations là, par presse interposée qui pourraient bien être des techniques des services. Hein, des techniques des services. On va... on a parlé des... J'en ai pas parlé, mais sur ces influenceurs, effectivement, il y en a un, par exemple, qui est à Grenoble. À Grenoble, il vit dans le quartier le plus à Échirol, donc qui est une ville à côté de Grenoble, qui est, par hasard, hein, la ville à... Le quartier a problème, difficile, les classes populaires, les vies précaires, les durs... Alors, je ne sais pas, lui, depuis combien de temps il est là, etc., mais on sait que, s'il était dans une situation de dépendance, s'il avait besoin de... Si on lui a fait miroiter quelque chose, une faveur en Algérie, pour lui-même ou pour sa famille, etc., on peut... facilement, des gens fragiles comme ça, comme disait Sanhaja, peuvent être facilement manipulés, instrumentalisés, etc. Donc, nous, faut quand même raison garder. Ça ressemble tout ça à des choses dilatoires, enfin à des diversions. Comme par hasard, ça sort d'abord dans la presse. Et alors, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, mais qui nous aurait bien servi, c'est l'état de droit. Ces gens-là tiennent des propos haineux sur en public. Il y a dans ce pays, c'est un état de droit, des lois, boum, voilà, et ils passent par l'état de droit. Et là-dessus, bon, on n'a pas à s'offusquer. Idem, mais on peut demander, et c'est ce que demandait le Hirak, on peut demander la même chose pour Boualem Sansal, hein, que l'état de droit se fasse. S'il y a un délit ou si on lui tient grief pour des déclarations sur le Maroc, ben est-ce que c'est un délit, enfin, bref, que le droit se dise et que l'état de droit agisse, voilà, et ça pourrait être réglé comme ça et tout le monde serait tranquille. Donc je suppose qu'on va encore nous sortir demain, etc., peut-être de nouveaux énergumènes. Mais pour terminer sur la question qui est le titre de l'émission ce soir, alors les camarades aussi autour de la table vont pouvoir le dire, mais moi je vois pas d'impact sur les immigrés algériens en France. Il y a pour le moment rien. Donc ça, effectivement, si ça servait à quelqu'un, ça ne peut servir qu'à faire des voix supplémentaires pour le FN. Ça,
d'un point de vue ma question suivante, mais
intérieur français, il y a un bénéfice. Effectivement, comme vous l'avez dit, on voit se réveiller des réseaux qui sont toujours là. Mais puis, ce sera mon mot de conclusion. Si vous voulez, entre la France et l'Algérie, on a 130 ans de passé qui n'est pas passé, hein, qui est toujours là, qui est impensé, qui est là dans les conscience sans même que les acteurs le sachent. Et donc, les choses prennent toujours, toujours une tournure enflammée, en dépit de la raison. Mais, enfin, voilà.
Wardia, il semble que vous avez répondu à ma dernière question, que c'était de voir l'impact. Et je voulais parler aussi, comme l'avait mentionné l'IS au début, du dernier sondage effectué par Europe, le groupe Europe 1, sur l'immigration algérienne, mais peut-être que
vous aurez... Je veux bien si on a des éléments précis sur ce sondage.
Pour dire d'abord sur ma dernière question. La dernière question relative donc, à des personnages qu'on a vus sur les réseaux, sur les médias français récemment, donc s'exprimer. Il y en a, votre micro est désactivé, Wardia.
Oui, ah ben, ces influenceurs, moi j'ai envie de dire que bon, les jeunes Algériens qui vivent en France et qui réussissent et qui sont dans, parfois des sommités dans leurs services, etc., ceux-là, on ne les voit pas, on ne les valorise pas. Parce que la tendance actuelle, c'est quand même la droitisation, voire l'extrême droitisation de la politique française, des médias français. Ça, je pense qu'il faut absolument pas le perdre de vue. On est dans ce contexte-là où les médias, surtout les médias lourds, la télé, etc., ce sont des médias qui appartiennent à des gens qui ont intérêt à droitiser leur discours et l'offre médiatique qu'ils entretiennent au jour le jour. Donc, c'est pour ça que ces influenceurs apparaissent. Et c'est aussi pour parce que ça c'est une image dégradée de l'immigré. Donc on montre ces gens-là et on fait en sorte que qu'ils soient vus par tous. Après que qu'ils soient interpellés, moi, ça ne me dérange pas du tout. On est dans un pays de droit, et tant mieux qu'il le soit, parce qu'il y a des appels à la haine, des appels au meurtre. Donc, qu'ils soient interpellés, c'est très bien. Et je voulais juste rappeler à Snhaja, celui qui, pendant le Hirak, avait appelé à nous asperger de d'acide. Celui-là, il n'a pas été justement, il a été arrêté, mais c'est son arrestation a été faite en tous les cas grâce à un avocat qui a pris l'initiative de porter plainte et de mener l'affaire. Donc ça, c'est un compatriote installé en Belgique, et c'est comme ça que ce monsieur a fini par se présenter sur Facebook avec sa femme, à se confondre en excuses, etc. On a la même chose aujourd'hui. Ces gens-là, ce sont effectivement des gens d'extraction sociale très, très défavorisés. On le voit, ce sont des personnes qui vivent en France, mais qui ont un niveau de langue qui est déplorable par rapport au nombre d'années qui passent en France. C'est pas une critique en tant que telle. C'est-à-dire que ça, c'est aussi un indicateur social de leur pas de leur intégration, mais certainement de leur difficulté à s'intégrer. Après, que ces gens-là soient intéressés par une quelconque proposition, ou ne serait-ce que par les temps qui courent, rentrer et sortir librement de l'Algérie, ça peut valoir le coup d'aller sur les réseaux sociaux et de faire un peu la promotion de l'appel à la mort, de l'appel au meurtre d'un Tejaddit ou d'un autre. Mais une chose est sûre, ils ont tous en commun ce désir de rester sur le territoire français et de ne pas repartir en Algérie. Donc la question, elle est là. La question, elle est là. Ces gens-là se appellent au meurtre de gens qui sont là-bas ou parfois qui sont ici, mais ils ne veulent pas quitter le territoire français. Donc c'est aussi un indicateur de quelque chose qui est... on veut quand même rester ici parce qu'au final, on est mieux ici que là-bas. On sait ce qui se passe là-bas. Donc ça, c'est... mais je pense que, pour revenir par rapport à ces rapports entre la France et l'Algérie, moi, j'ai envie de dire, Macron, c'est un président parmi d'autres. Demain, on aura un autre président. Le président algérien, c'est pareil. Et le contexte international va peut-être changer, je l'espère pour le meilleur, même si on a beaucoup d'indicateurs qui sont assez pessimistes. Mais ce sont des présidents qui vont faire leur mandat, qui ne sont pas éternels. Et ce qui était présenté par rapport au président Macron, ce qui était présenté au début comme étant un atout, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas issu, comme l'était le président Chirac ou Mitterrand, issu d'une période historique qu'ils ont connue eux-mêmes. Bon, je ne vais pas rappeler que Mitterrand a été ministre de l'Intérieur dans les années 40 et qu'il est à l'origine de beaucoup de... Donc d'exécution, le président Chirac, pareil, a fait son service militaire en Algérie, donc ils appartiennent à cette période où ils ont connu la colonisation. Le président Macron est plus jeune, il ne l'a pas connu. En revanche, c'est peut-être parce qu'il ne l'a pas connu, ce qui était présenté comme un avantage, moi je le vois aujourd'hui comme un inconvénient, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas la mémoire de ce qu'était la colonisation et de tous les efforts qu'il a fallu faire pour que ces deux pays puissent enfin se parler et se parler d'égal à égal, et pourquoi pas, donc bon, moi je l'interpréterais plutôt comme ça, je m'arrête là.
D'accord, merci. Elias.
C'est par rapport à la troisième question.
À la dernière question relative à
la personne qui est passée. La personne dont tu fais allusion. Voilà. Absolument. Donc, je vais essayer de rester dans le tempo de la question. La personne dont tu fais allusion, Rabah, c'est quelqu'un qui était dans le Hirak, qui a milité pour un changement de façon pacifique depuis février 2019. Mais je suis désolé, après ce parcours atypique, chaotique, changement de ligne carrément, une déviation inexplicable, il faut que je dise à cette personne, bon, on l'a connu comme ça, il faut dire les choses, cette opposition, elle n'est pas contre son pays, elle est contre le régime. Elle est contre le régime. Contre le régime, ça ne veut pas dire qu'on va trahir la nation. Je veux dire, quand cette personne, quand elle passe sur un média d'extrême droite en critiquant la mosquée de Paris, qu'on soit d'accord ou pas dans la gestion de la mosquée de Paris, la mosquée de Paris, que tout le monde le sache, est un pont entre les deux rives, entre la France et l'Algérie. Qu'on condamne sa gestion financière, sa gestion ceci, quand il dit que cette mosquée de Paris, elle contient dedans ce qu'on appelle des influenceurs. Mais tous les lieux de culte, est-ce qu'on va vérifier si tel ou tel, ça n'a pas de sens. Sachant que cette personne a affiché son soutien à l'extrême droite, à Reconquête, à Nafo, à Madame Nafo. Je veux dire, c'est au-delà, en apportant son soutien et en essayant un petit peu de décrédibiliser Rima Hassan. Moi, je rentre pas dans les détails. Moi, j'aimerais savoir son parcours, il est atypique, il est chaotique. Bon, maintenant, il assume ce qu'il a dit. Maintenant, il a été invité par CNews. Il n'a pas été invité par d'autres médias. Et d'ailleurs, il faut rendre hommage.
Si, il a été invité par d'autres médias.
Yes. Oui, pardon. Oui,
il est passé au moins deux fois, je l'ai vu, au moins deux fois sur midi 1.
Tout à fait. Mais en tout cas, il n'a pas invité ce qu'on appelle par LCI. Absolument. Par contre, il faut savoir que 20 minutes, elle a pris contact avec les services relevant du ministère de l'Intérieur. Ils ont posé une simple question. Est-ce que cette campagne d'influence, est-ce qu'elle est coordonnée par le régime algérien? C'est que le ministère de l'Intérieur français n'a pas répondu. Ça veut dire que non. Ça veut dire probablement, on va dire une certitude, qu'elle n'a pas été téléguidée par le régime algérien. Par contre, bon, qu'on le veuille ou pas, par des seconds couteaux, qui pour qui? Mais il faut vérifier l'information. Il faut vérifier l'information parce que l'information, elle est brûlante. Il faut, lui, qui est un activiste, qui était activiste, et qui a quand même des TikTokers qui le suivent, et qui a quand même la justesse du mot, il fallait qu'il vérifie. Maintenant, taper sur son pays, pour moi, est grave. Et voilà, en tout cas, le but qui revient à nous, c'est d'apaiser les choses. C'est d'apaiser les choses et appeler au retour des choses entre la France et l'Algérie. C'est très important, comme le disait très justement Wardia. Tebboune va partir, ou il va arrêter son mi-mandat. Macron, il lui reste 2 ans pour partir. Nous souhaiterions une autre reconfiguration des relations fortes entre la France et l'Algérie, avec un pari gagnant-gagnant, avec une mesure d'apaisement, pourquoi pas avec un traité d'amitié. C'est comme ça qu'il faut voir le monde et c'est comme ça qu'il faut se projeter dans l'avenir.
Merci, Lies. Sanhadja, sur la même question, est-ce que, je disais, est-ce que ce genre d'opposant ne parasite pas la réelle opposition démocratique que vous représentez vous-même, au même titre que beaucoup de personnes? Quand on voit quelqu'un aller, comme le dit le rappel Lies, sur des médias proches de l'extrême droite, de la droite dure en tout cas, s'attaquer à l'Algérie, dire qu'elle complote, elle fomente donc un complot pour la déstabilisation de la France, qu'elle envoie des agents pour commettre des attentats en France. Il se permet de s'attaquer à la gauche et à l'extrême gauche française. Il cite Rima Hassan. C'est un peu beaucoup, n'est-ce pas, Sanhadja?
Ouais. Non, mais moi, c'est clair, je me dissocie de cela. Hein. C'est clair, on n'est pas dans le même combat. Nous l'avons vu, que ce soit pendant le Hirak ou dans les années 90, pour ne citer personne, des gens qui se sont fait une notoriété, qui passent sur tous les médias et qui arrivent même à avoir des appartements dans le 5e arrondissement de Paris sur le dos de l'Algérie. Nous, on n'est pas, nous, autour de cette, en tout cas de cette table, et pas que, on se connaît, mais pas que cette table, même ailleurs, on est soit travailleur, soit fonctionnaire, soit prof, soit, voilà, et c'est comme ça que, et donc on se bat pour une démocratie en Algérie, pas pour le retour des nostalgiques de la France-Algérie. C'est certain. Que ça soit en France ou que ça soit ceux qui vont, moi je suis militante maghrébine, je suis au Forum social maghrébin, et nos amis c'est Omar Radi, c'est les militants du BDS qui sont arrêtés aujourd'hui au Maroc, et nous revendiquons Maghreb Chouroub. On veut pas aller marchander l'Algérie dans le pays, et comme eux, j'aimerais pas que Omar Radi vienne ou certains Rifins qui ont été utilisés en Algérie, d'ailleurs, qui sont pas du tout représentatifs au Maroc. Nous sommes pour un combat, une démocratie désintéressée. Nous sommes pour une militance désintéressée. Au mieux, j'ai envie de dire, je vais me battre contre ceux qui sont pour un projet libéral, suivez mon regard, mais sur un plan politique, sur un plan réellement politique, pas c'est pour me placer ou pour placer Flan ou la Fultaine, voilà. Et donc, pour conclure, moi, c'est effectivement, ils peuvent nous nuire, mais après, comment ils peuvent nous nuire? Parce que, évidemment, la déformation, je ne sais pas, il y a un journal qui s'appelle Ahd 54 ou un truc comme ça qui déforme complètement les choses. Pardon ?
Un torchon électronique.
Voilà. Et par exemple, ces journaux vont essayer de nous mettre sur le même pied avec ces gens-là, les agents de l'impérialisme, les agents de Tatbir, etc. Alors que nous sommes des militants pour la Palestine, nous nous battons pour qu'il y ait un cessez-le-feu en Palestine, pour qu'il y ait une dignité, pour qu'il y ait une démocratie dans nos pays. Mais malheureusement, ceux qui utilisent ces torchons veulent bien le faire et nous mettre nous salir du même point de vue. Et ça, je pense, ce que je pourrais donner en conseil à l'Algérie, elle devrait dissocier les militants pour la démocratie qui sont et qui resteront opposants pacifiques et ceux qui veulent brader l'Algérie ou se placer, quoi. Et nous, on veut une Algérie démocratique. Et je le dis encore une fois, je me dissocie de cet inergumène qui va sur ces news, et c'est honteux. C'est honteux, c'est honteux.
Merci, Sanhadja. Ma dernière question, elle est reliée, comme le rappelait à Omar tout à l'heure, quel impact pour les Algériens de France a-t-elle ou pas cette montée de tension entre l'Algérie et la France? Yes, au début de sa première intervention, il citait un sondage organisé par le groupe Europe 1, CNews, etc., et qui montre que 66% des Français sont contre l'immigration en provenance d'Algérie. Il y a un 26% chez les sympathisants de France insoumise, mais c'est 98% chez le RN, chez les sympathisants du RN. C'est 74%, il me semble, ou 78% chez les Républicains. C'est évidemment, je pense que c'est un sondage qui a une connotation raciste dès le départ. Je ne vois pas pourquoi on pose ce genre de questions. Mais qu'avez-vous ? Est-ce que vous dites toujours, Omar, qu'il n'y a aucun impact sur la vie des Algériens en France ? Est-ce qu'il n'y aura pas, il y a pas un risque encore de monter des actes des actes racistes contre les Algériens en France, des discriminations, plus alors, que la situation actuelle ?
Si, c'est ça la question, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des montées des dangers sur toutes les populations immigrés et issus de l'immigration, hein, quelle que soit leur nationalité, parce que bien sûr, et ce danger, il est pas absolument parallèle, superposé à celui de l'extrême droite et de la montée de l'extrême droite. C'est quasiment des synonymes. Hein. L'extrême droite française fait, dans certaines catégories, fait son électorat sur l'islamophobie, la haine des immigrés, et donc dès que le prétexte passe à portée de main, évidemment ils vont s'acharner dessus, hein, donc en ce sens. Mais ça, c'est le contexte politique, disons français, c'est pas cette polémique autour de Sansal et machin, des influenceurs. Bon, ça vient jeter de l'huile, un peu plus d'huile sur le feu, mais donc oui, on est les dangers non seulement ne vont pas décliner, mais toute la situation. Et tout à l'heure, Sadra Ajal a signalé ce pays est dans une crise politique. Ses institutions sont au bord du blocage. La précédente fois que les institutions étaient dans le blocage, c'est pendant la guerre d'Algérie, c'est 1958. Ça a fait péter les institutions, ça a été la fin de la 4e République, et alors c'est peut-être, vous voyez, ce n'est pas qu'une coïncidence, ce n'est pas juste une coïncidence. Ça vous donne une idée, pour ceux qui ne vivent pas en France, du poids mental que continue de représenter cette histoire coloniale qui n'a pas été métabolisé, qui n'a pas été traité, etc. Et qui continue de pourrir. Elle continue de pourrir la situation. Elle fait une partie de l'électorat de l'extrême droite. Elle fait les alignements de tout l'establishment français derrière Israël et contre la Palestine. Pourquoi ? Parce que les Palestiniens sont des Arabes, c'est-à-dire qu'il y a un imaginaire occidental, enfin, bon, je vais peut-être m'égarer, mais donc, ta question, c'était un mot de conclusion aussi, hein, c'est ça ? Donc, je ne suis pas inquiet par cette polémique, Hadi, celle-là. Là, vraiment, demain, en revanche, au lendemain de quand cette polémique se sera éteinte, la situation reste la même. Al-Harraga mazal ou Dayaïn, les sans-papiers sont toujours poursuivis, pourchassés, les quartiers populaires, le mal logement, etc., qui sont souvent le lot des immigrés algériens, des Algériens en France. Hein, donc, comme les autres travailleurs, eh ben ça n'aura pas changé. Et ça, c'est ça qui est à prendre en charge. Et si j'ai un mot à dire aux auditeurs qui hésitent à s'engager dans le dans la bataille citoyenne, quoi, là où ils vivent. Engagez-vous, prenez conscience, enfin, les dangers sont très forts et il ne faut pas, disons, rester spectateur sous prétexte qu'on serait pas chez nous ou qu'on serait à double identité, etc. Voilà, enfin bon.
Merci, merci Omar. Wardia, le micro.
Alors moi, j'ai envie de prendre, et pardon, hein, à la fin, j'ai quand même envie de revenir un petit peu à l'histoire. Dans les années 30, c'était la crise économique et les personnes qui étaient l'objet de ce racisme et de cette xénophobie, c'était les Polonais. C'était pas encore le plombier polonais, c'était les mineurs qui venaient dans le Nord, à qui on a brûlé les maisons, les commerces, etc., pour les faire repartir chez eux. On les a fait venir quand on en avait besoin, et ensuite, donc dans les années 30, la crise, et on voulait les faire repartir, et comme ils ne repartaient pas spontanément, donc il fallait les pousser un peu en brûlant leur commerce et en les menaçant. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où il y a une crise économique, il y a une crise des médias, une crise économique qui est quand même importante, et une crise des médias, c'est-à-dire qu'on a, les médias ne tiennent plus, on a des médias qui sont à l'exception, à l'exception du Canard enchaîné, un petit peu du Monde, mais qui bénéficient quand même des subventions de l'État, de Mediapart, mais sinon tous les autres médias sont aux mains de milliardaires et qui ont tout intérêt à ce que le contenu de leurs journaux, ne verse pas dans l'analyse qui est comment se fait-il que ces gens-là s'enrichissent et à ce point-là que payent-ils les paradis fiscaux, etc. Donc ils ont tout intérêt à ce que tout un pan de l'explication économique et politique n'apparaisse pas. Donc encore une fois, c'est toujours plus intéressant de montrer l'autre, hein, de cibler, de pointer l'autre. Et ça, d'ailleurs, c'est un discours qu'on retrouve, c'est-à-dire bon, on a cette xénophobie, ce racisme contre les Arabes musulmans. Donc cet amalgame qui est fait aussi, parce que bon, hein, il faut savoir que les Arabes, ils sont pas tous musulmans. On a des Syriens en France qui sont pas musulmans, ils sont chrétiens. On a des Libanais qui sont pas musulmans aussi. Bon, donc cet amalgame qui est de tout mettre dans le même sac arrange les médias et arrange le pouvoir aussi. Et ce discours stigmatisant, il est aussi utilisé pour les pauvres en France, y compris ce qu'on appelait autrefois dans les colonies les petits pauvres, les petits blancs, c'est-à-dire les blancs qui sont pauvres. On le retrouve. Il faut voir le discours de stigmatisation des pauvres qui voleraient l'argent des Français, etc. Alors que les études des études sérieuses montrent que plus de la moitié des gens qui peuvent prétendre au RSA ne le demandent pas. Néanmoins, on entend cette stigmatisation des pauvres, des gens qui sont là à voler l'État, etc. Donc il y a cet amalgame. On est dans cet amalgame. Et moi, je suis désolée pour notre camarade. On est aussi dans la crise de l'engagement politique. C'est-à-dire que le travail qui était fait autrefois par le Parti communiste, les gens de gauche dans les quartiers, il n'y a plus personne pour le faire aujourd'hui. Mmh. Et dans les quartiers populaires, il ne reste plus que les pauvres et les pauvres entre eux. Et donc, comme il y a une majorité de pauvres d'origine arabe ou des descendants d'immigration algérienne, maghrébine ou africaine, donc il y a un entre-soi, entre pauvres qui se construit de fait. Mmh. Et donc, il y a aussi cette frustration qui est parce que bon, il y a plus cette mixité. Moi-même, je travaille dans le 93, je vois dans mes classes, il y a très peu de mixité sociale. Il y a très peu de mixité sociale. Et l'engagement politique, les gens n'y croient plus. Ou très peu de gens y croient, c'est ce qui est dommage. C'est pas du tout. Je suis pas contre. Je suis pas pour justement que, enfin, ce désengagement. Moi, je dirais plutôt qu'il faut absolument s'engager. Donc il y a. Mais par contre, il y a quand même. Et ça, moi qui travaille avec les jeunes, il y a quand même. Les jeunes sont en cette culture du respect des droits humains. Ça, il l'en, c'est-à-dire l'intolérance, elle aurait insupportable. Moi, je crois en la jeunesse et je pense que je reste optimiste. Merci.
Merci. Lies, il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on termine
sur la question de...
Je veux dire 1h30, qu'on n'arrive pas là.
Rapidement, mais rien ne va changer pour une raison très simple. Même il y aura 10 000, 15 000, 20 000 OQTF obligation de quitter le territoire français. Donc, la France va demander ce qu'on appelle, va faire des demandes auprès des autorités consulaires algériennes. La réponse, elle sera négative. C'est-à-dire que l'Algérie va refuser de leur accorder des laissez-passer pour les OQTF. D'ailleurs, la dernière information, l'influenceur qui a été envoyé en Algérie. Alors, entre nous aussi, même sans, qui était défendu par un avocat. Alors, avant que le jugement soit prononcé, ils l'ont mis dans l'avion, aussitôt arrivé à Alger, aussitôt retourné à Paris. Donc, ça veut dire il faut revenir à l'état de droit, qu'on le veuille ou non, c'est ça. Maintenant, concernant la politique franco-algérienne, bon, on va dire l'immigration, l'islam, c'est le point de levier, la pierre angulaire autour de laquelle s'appuie l'extrême droite. Il y a une crise économique majeure qui, maintenant en France, le budget n'est pas encore voté. Les marchés, ils sont en train, ils mettent le gouvernement français dans le collimateur. Est-ce qu'on va prêter de l'argent? Mais forcément, le prêt, ça va être pas à taux négatif, c'est-à-dire à taux positif. Forcément, il faut préparer encore un budget pour payer les AGO et pour payer la dette. Voilà. Maintenant, moi, je dirais que tôt ou tard, les relations doivent revenir, qu'on le veuille ou non, doivent revenir. Il faut aller dans le sens de l'apaisement. Je pense que Retailleau, il a été neutralisé. Il faut rendre hommage quand il y a des choses comme ça. Il faut dire, Retailleau, il a été neutralisé par la porte-parole du gouvernement, disant que non, qu'il voulait faire une loi sur le voile, c'est-à-dire que toute personne, une femme, n'a pas le droit d'accompagner ses enfants à la piscine ou au cinéma parce qu'elle porte ceci. Non, quand même, on est dans un espace public, et dans un espace public, c'est la loi de 1905 qui s'applique, et aussi c'est la loi de 2004. Donc, elle est libre de porter ce qu'elle veut. Voilà. Concernant l'Algérie, l'Algérie, je veux dire, c'est à Tebboune de changer les choses. C'est les décideurs dans l'arrière-chambre de Mouradia de trouver une solution à ce pays. Nous sommes des opposants, nous militons avec nos maigres moyens. Nous ne sommes pas contre notre patrie, nous ne sommes pas contre l'Algérie, nous n'avons jamais trahi notre pays, nous sommes des opposants, peu importe l'intensité de notre militance, il faut le changement, il faut libérer tous les détenus d'opinion, sans distinction. Moi, je dirais même depuis les années 80, je le dis, oui, parce que c'est une mesure d'apaisement pour faire repartir et décoller le pays, et aussi démocratiser la société, ouvrir les champs médiatiques et politiques. C'est la seule solution pour le pays, et construire un pays pour décoller dans la cour des grands.
Merci, Yes Sanhaja, pour terminer. Le micro.
Oui, ouais, rapidement. Je pense que, je reste dans les questions, est-ce qu'il y a une influence sur les enfants, ces rapports? Je pense qu'il faut distinguer sur l'immigration. Il y a les ouvriers qui ont maintenant 80 ans, 70 ans, les de Renault-Billancourt, etc. Et ils y vont de moins en moins mourir en Algérie, hein, c'est la réalité. D'où la bataille des cimetières et des carrés musulmans reste importante parce que le mythe du retour est cassé parce que il y a les enfants, il y a les petits-enfants, etc. Donc il y a les ce qu'on appelle les beurs ou les enfants qui sont nés ici, qui sont de troisième voire quatrième génération, qui adorent l'Algérie, hein, ils sont capables. Il a perdu sa carrière et c'est le cas de moi. Je travaille avec ces jeunes et je le vois. Il y a un vrai amour, mais ils sont français. C'est-à-dire, ils s'intéressent plus à ce que à voter Mélenchon que d'aller voter sur les élections au consulat d'Algérie, quoi. Ceux qui vont voter au consulat d'Algérie, ceux en général les vieux qui ont peur qu'on leur donne pas les papiers. Mais sinon les autres, c'est pas leur. Il y a un mot que ma fille utilise, c'est pas mon bail, je sais pas qu'est-ce qu'elle dit, c'est pas leur monde, quoi. C'est pas l'Algérie, ce n'est pas leur monde. Et alors t'as une minorité des investisseurs qui ont rêvé à un moment donné que l'Algérie s'ouvrait, ils ont été beaucoup ont été déçus, faut dire la vérité, d'où ma conclusion à la fin ça, par rapport à l'Algérie. Et ceux qui s'intéressent à l'Algérie, c'est nous, c'est les Harakis, c'est ceux qui sont venus. Je ne parle pas d'Omar qui est là, je crois qu'il est né ici, je crois. Mais en tout cas, ceux qui sont venus depuis les années 70 ou alors après les différentes crises. Voilà, donc il y a plusieurs catégories d'Algériens en France. Je pense qu'il y a une chose, l'Algérie gagnerait sur le plan politique à démocratiser et à ouvrir le champ politique. Ce n'est que comme ça. Parce que moi, je suis très investie dans le combat Palestine et bien sûr, dès que je dis je suis algérienne, je suis fière de le dire dans ce sens, sur la question palestinienne, mais je dis toujours, on peut pas soutenir la Palestine quand on réprime les Algériens en Algérie. C'est pas possible. Pour que le discours soit crédible du soutien de la Palestine, il faut qu'il y ait zéro militant politique en prison. On peut pas reprocher à Israël de bombarder, etc., alors que il y a des jeunes qui ont été condamnés pour toi. Bien sûr, je ne compare pas les deux choses. Israël, c'est un génocide, c'est un assassinat. L'Algérie, c'est un manque de démocratie. Donc, je ne compare pas du tout. Mais en tout cas, l'Algérie serait forte quand elle libérera le champ démocratique et le champ politique. Et ça, c'est faisable. Ce n'est pas impossible. Moi, je n'arrive pas à comprendre ceux qui décident, qui n'arrivent pas à intégrer cette donne, quoi. C'est quand même important qu'il y ait de la démocratie, que les journaux reviennent, que les radios s'ouvrent de nouveau, que c'est une Algérie démocratique qui se respectera. Ça sera une Algérie libre et démocratique. Et effectivement, nous serons derrière de soutenir contre l'impérialisme, contre les nostalgiques de l'Algérie française. C'est évident, mais il faut vraiment qu'il y ait un virement de 360 à l'heure ou je ne sais pas 360 degrés pour que parce que l'Algérie a les moyens, en tout cas économiques si on veut bien, humains, et c'est pas possible de continuer à rester comme ça. Ce n'est pas possible. Je pense que on ira dans l'impasse totale. Et là, ça devient peut-être ça craint pour que moi j'ai envie de, et je conclue Rabah, j'ai envie que les jeunes qui vont venir, c'est-à-dire ceux qui ont 10 ans, qu'ils rêvent où est-ce qu'ils vont travailler à Ain Salah ou à Timochent ou à construire des écoles, etc., que de rêver de prendre des barques de fortune et mourir dans la mer.
Merci, Sanhaja. J'ai vu la main levée de Omar. Je ne sais pas ce que c'est.
Je vais pas.
30 secondes, parce qu'on est dit.
Voilà, c'est très bien ce qu'a la conclusion de Sanhaja sur. Voilà, simplement. Et la richesse supplémentaire, pour aller dans ton sens, la richesse supplémentaire que l'Algérie pourrait se donner, c'est de. Non pas d'opposer les nationaux aux émigrés, c'est de comprendre que tout ça, c'est une nation. Enfin, ça fait une nation, et d'utiliser les synergies. Et comme tu disais, si le champ politique s'ouvre en Algérie, si comme vous voyez, comme ça vient de se passer, ou ça pourrait être en train de se passer en Syrie aujourd'hui, hein, mmh. avec ce formidable évolution, renversement, etc., où on voit les Syriens qui étaient exilés avoir envie de repartir, mais disons sans qu'on en soit nous à la même échelle de avec le régime algérien, etc., créer un courant de retour, mais de circulation. Mmh.
Merci Omar, merci Sanhaja, merci Wardia, merci Elias, merci aux internautes qui ont suivi et qui suivront peut-être en différé cette émission. Le programme sur Alterna TV se poursuit. Il y avait une émission prévue pour demain consacrée au gang de rue à Montréal, au gang de rue algérien et maghrébin. En particulier, on avait invité Madame Maria Morani, une spécialiste du crime organisé, des gangs de rue ici, connue, très connue au Québec. Mais elle nous a écrit pour nous demander de reporter l'émission. On l'a déjà annoncé sur la page Facebook de Alterna TV, mais je le répète, donc l'émission de demain, elle est reportée. Sinon, samedi, il y a la conférence du Graal, toujours sur notre partenaire, toujours sur Alterna TV. On présente le livre de Elisabeth Périgaud, Humour and the Poor in Algeria, 1920-2021. Donc, c'est une conférence du GRA, du groupe de réflexion sur l'Algérie. Donc, ça va être samedi, demain, après-demain, samedi. Dimanche, c'est le webinaire habituel du professeur HEC Omar Aktouf, suivi d'une émission politique sur l'actualité politique en Algérie. Donc, on va parler encore d'Algérie avec des représentants de partis politiques du RCD, Rachid Hassani, du PT, du Parti des Travailleurs, Ramadan Youssef Tahzit, et puis, ça reste à confirmer, ça va être confirmé demain, du représentant de Gilles Jadid aussi, Monsieur Barahmia. Donc, c'est des dirigeants des trois partis d'opposition en Algérie. Voilà, merci à tous d'avoir accepté l'invitation d'Alterna TV. Au plaisir de vous retrouver. Bonne soirée tout le monde.
Merci.
C'est Gassam Gass. C'est Gassam Gass, oui. On l'a raté. Gassam Gass, oui.
Gassam Gass, allez.
Oui. Gassam
Gass. Allez, bonne soirée à tous.
Merci, ciao, ciao. Bye, peace.